Messieurs et dames, c'est vendredi. Printemps et plaisir pour coûter des mots quatre paroles de 20 à 21h30. Des mots quatre paroles, bonne ou la voix sur le 88.4. Coûter et entendre, pour plaisir en nous, là.
Ou pas même Jean Bécro, nous changer l'esprit du fond. Pareil les autres finis joignent, avec Aïe ou pas ça vous sauve. Alors toi tu profites, compagnie plus bon dominé.
Donc Aïe, d'après nous, le gars de l'Ouest si ça veut. Et nous t'avons pas avancé, pas mon qui va même ça vous laïe. Donc Aïe, d'après nous, le gars de l'Ouest si ça veut.
Pressé, ou dès que l'été arrive, parce qu'il n'y a pas de fonction limitée. Origine ou massacré, quand t'as déjà pas même parlé.
Nous caillons, d'après nous, le gars de l'Ouest, si ça veut. Mais nous n'avons pas avancé, pas nous qui parlons ça pour l'ailleurs. Nous caillons, d'après nous, le gars de l'Ouest, si ça veut.
Oui, bonsoir, bonsoir. Jeannot a deux mots, quatre paroles à vous dire.
Oui, bonsoir. Nous envoyons un petit son pour la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Et nous envoyons un petit morceau pour juste pour leur faire plaisir à ces demoiselles.
Et à ces dames.
Et à ces dames. Je ne vois pas.
Voilà, alors, musique, le petit morceau.
Et... Oh, non, non, non. Fini tout, ma besoin toucher frontière. Pas dit moi non, 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 non. Ou savent que moi love de vous. L'amour sans bagaille qui tourne. Faut le cas songer ça. Pas dit moi non, 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 non. Tout ça ou les moins que ça bat. Sugar, des jours passés déjà bien trop longs.
Et oui, merci Jeannot pour ce petit extrait, cette petite douceur adressée à toutes les dames et les demoiselles de la création. C'est cela, bon, nous n'allons pas nous limiter. Donc, bien le bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Radio Galère. Après 4 années d'absence, nous faisons notre retour pour la seconde fois en 2025. Merci Sidi de nous avoir poussé à revenir, à reprendre l'antenne de Radio Galère. Mais cette fois, avec une nouveauté technique, puisqu'il y a le DAB+, hein, version numérique de Radio FM, ainsi que les podcasts, pardon, et la table de mixage. Côté humain, il y a aussi des changements. un rajeunissement que nous essayons de faire des animateurs. Ce n'est pas nous présents autour de la table ce soir, mais il y a notre ami Gary qui représentera cette nouveauté, cette alternative autre. Alors, il y a le départ de certains, je parle que de Radio Galère. L'histoire récente de la Galère, il y a Étienne, bien sûr, Théo. Et nous souhaitons aussi rendre un hommage à une personne proche de notre station et à son engagement, qui est le docteur Issa Kouni. Ce dernier nous a quittés. Nous n'oublions pas tout leur engagement. De notre côté, vous ne retrouverez pas à nos côtés la voix de notre frère, ami et camarade, Blaise Jean-Denis, qui dénonçait les copains et les coquins et portait fièrement sa carte du Parti communiste français et du Parti communiste guadeloupéen. Cependant, comme je vous le disais, il y a notre ami Gary qui est là. Et peut-être, Gary, bien le bonsoir. Hein? Gary, bien le bonsoir. Donc, je disais que c'est toi la relève, j'espère. Et bientôt, il y aura notre copain, notre camarade qui viendra te rejoindre pour nous apporter un peu plus de force, un peu plus de ballon.
Exactement. On envoie un big up à Issa qui est en concert ce soir, donc qui n'a pas pu être là.
Vous voyez, il a déjà une voix radiophonique, alors c'est extraordinaire, c'est bien sachant de nous-mêmes. Donc voilà, il y a ce soir notre ami Jeannot que vous connaissez déjà. Bonsoir Jeannot,
rebonsoir. Bonsoir.
Nous avons notre ami Guy aussi, qui est très timide toujours, mais bientôt il va prévoiser
toujours là quand même.
Et bien sûr, notre inénarrable Yorgis, qui est à la technique, qui est derrière. Donc bien le bonsoir Yorgis aussi, hein. Nous sommes contents
bonsoir,
de te retrouver. Voilà. Donc, ceci étant, je vous rappelle que l'émission se déroulera désormais une fois par mois. La relève de Démocrate Parole, Gary et Issa, et seront présents, j'espère, le deuxième vendredi de chaque mois de 20h à 21h30. La prochaine édition sera donc le vendredi 14 mars 2025. Et comme le mois de mars, vous savez que j'ai la Journée internationale des droits des femmes, nous tenterons de dresser des portraits de femmes qu'on comptait pour les Outre-mer, y compris un petit clin d'œil que nous adresserons à Olympe de Gouges aussi. Le numéro de téléphone de Galère n'a pas changé, il demeure celui-ci, le 04 91 08 28 10. Et nous profitons pour saluer notre ami et compère Maurice, qui assure l'émission Ponche Rétro Caraïbes des samedis beau matin. Alors, première pause musicale avec les Vikings de la Guadeloupe, n'est-ce pas Sidi? À nous aller! Nous, à mon soir, c'est Canoupé fait!
travaille pour nous faire. Nous prenons diplôme, assez diplôme, les rives pour rouler. Patron, j'ai embauché machine parce que c'est la cadouille patron qui capte ça. Si nous, nunca souffrons, à nous préférer la vie, la chair.
Oui, re. Depuis quelques années, Radio Galère ouvre sa fenêtre sur le tout monde, radiogalère.org, et bien sûr sur les 88.4 FM et en DAB+. Alors, dans notre rubrique Histoire, le savez-vous, nous allons vous parler du mois de février. Février, dans le sens où c'est un mois qui est extrêmement important concernant les Outre-mer. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, on pourrait même qualifier le 14 février de Saint-Valentin sanglant, n'est-ce pas, Gary ?
Saint-Valentin sanglant et Saint-Valentin grondant. Voilà, parce que quand la violence coloniale réprime, c'est parce que d'abord, les sujets coloniaux ont grondé, ont fait preuve de colère, et en général, voilà, c'est ce qui se passe quand les sujets de l'ordre colonial se révoltent, la répression est sanglante. Je vais vous proposer une petite chronique que j'ai appelée des février maudits au février grondant. Donc que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, les 14 février n'ont pas que une saveur romantique. Nos Saint-Valentin ont le goût du sang. Donc nous parlons du sang qui tache les sols de nos plantations, celui des ouvriers agricoles qui réclamaient de quoi manger décemment et vivre dignement. Ce sang qui témoigne de la violence coloniale habituée chez nous à tuer et à mépriser les vies. En Guadeloupe, la Saint-Valentin du sang renvoie au massacre du Moule le 14 février 1952. En Martinique, la Saint-Valentin du sang renvoie au massacre de Chalvet le 14 février 1974. Donc chez nous, en Martinique, la mémoire collective n'a pas retenu cette appellation de massacre de Chalvet. On parle plus souvent de février 1974. Comme on parlerait en France, par exemple, de mai 68. Sauf que chez nous, c'est avec en supplément l'héritage structurel et socio-économique de siècles d'esclavage et la complicité des béquets de l'État français lorsqu'il s'agit d'avoir droit de vie ou de mort sur la vie des nègres lorsqu'ils sont trop bruyants. Février 74, ce sont 14 quarts de 200 gendarmes escortés au ciel par un hélicoptère. Mais février 74, c'est aussi une liste de revendications. Si j'étais joueur, je vous la détaillerais sans vous la dater, juste pour voir vos réactions, tant elle pourrait émaner d'un communiqué de lutte actuel. Il ne s'agissait ni plus ni moins que de revendiquer le respect des droits salariaux, syndicaux, ainsi que l'accès à des conditions de travail se rapprochant davantage de celles en vigueur dans la lointaine métropole. Je rappelle que nous sommes en février 74, 28 ans après la départementalisation. La départementalisation, ce moment de l'histoire qui a renommé des gouverneurs en préfets sans changer leurs fonctions et leurs attributions. Au vu de la date de cette chronique, j'avais envie de proposer une rétrospective sur nos mois de février. Nos mois de février maudits, nos mois de février bouillants. Car ces mois de février n'ont pas été le théâtre que de tueries. Elles ont surtout été des points culminants de colère. Des colères que l'ordre colonial a voulu frapper d'un bras vengeur et assassin. Comme en février 1900, lorsqu'en Martinique au François plus précisément, l'armée française coloniale, là je précise que l'ordre des mots est important quand je dis l'armée française coloniale et non l'armée coloniale française, parce qu'il ne s'agit pas d'une armée coloniale française mais d'une armée française qui en tout lieu et en tout temps reste coloniale. Donc je reprends ma phrase, lorsque l'armée française coloniale a causé 10 morts et 18 blessés dont 12 grièvement atteints. Que des corps meurtris par le travail de la canne réclamant ni plus ni moins qu'un salaire de 2 francs journaliers ont essuyé les balles. Je m'attarde symboliquement sur les mois de février parce qu'ils sont l'occasion de prendre des photographies ponctuelles de là où nous en sommes en termes de justice sociale dans la colonie Martinique. Mais cette manière qu'a la France coloniale de tout réprimer dans le sang est une vieille tradition qui ne se résume pas qu'au mois de février. L'insurrection du Sud de 1870, la tuerie du François de 1900, la fusillade de Bassignac en 1903, la tuerie du Carbet en 1948, la fusillade de la Chassin en 1951, les émeutes de décembre 1959, la fusillade du Lamantin en 1961, février 1974. Voici ici le macabre curriculum vitae des forces de l'ordre en Martinique. Mais revenons sur les février. Comment aborder les mois de février sans évoquer les mouvements de février 2009 aux Antilles ? Concernant ces événements, qui nous sont beaucoup plus contemporains, j'ai eu envie de les amener sous un autre axe, un axe beaucoup plus intime, d'un point de vue beaucoup plus interne et intérieur. En février 2009, personnellement, j'étais tout jeune bachelier et étudiant sur le campus de Schœlcher, en Martinique. Ces événements émergent en parallèle de la diffusion d'un documentaire diffusé sur Canal+, « Les derniers maîtres de la Martinique ». En France, ce documentaire n'a pas dû tellement faire de bruit, je suppose, moi j'étais pas ici à ce moment-là. Ou s'il en a fait, il a dû en tout cas émouvoir quelques poignées de personnes. Ce documentaire expliquait qui étaient les béquets, leur mainmise sur l'économie martiniquaise et à quel point leur poids économique pèse sociétalement, structurellement, matériellement sur la vie de l'ensemble des Martiniquais. Une mainmise dont la pérennité s'organise au sein de l'État français et se négocie à coups de lobbying dans les cercles du pouvoir européen. De mémoire, en Martinique, ce qui nous avait particulièrement émus, c'était d'entendre leur voix à ces béquets, de voir leur visage, de les entendre parler de nous avec mépris et d'entrer dans leur somptueuse résidence. Car jusque-là, ces béquets que tout le monde savait nommer jouissaient d'un privilège, celui de l'invisibilité. C'était l'un des nombreux atouts dont ils jouissaient pour pouvoir acheter la paix sociale. Je reviendrai plus tard sur cette notion de paix sociale, mais ce qui s'est joué en ce mois de 2009, c'était l'arrêt momentané de cette invisibilité, de cette paix sociale, de ce confort absolu. Si je dois voir les événements de 2009 avec un peu de recul critique, s'il s'agit en tout cas de parler depuis la Martinique, je dirais que nous avons manqué d'espace de dialogue en marge des grandes marches et des espaces de négociation. Bloquer l'activité économique de l'île n'aurait pas dû entraîner la fermeture de tous les lieux où les différentes générations, voire les jeunes entre eux, l'ensemble des strates subissant la domination coloniale et béquée, auraient pu se retrouver pour dialoguer, échanger leurs accords et désaccords. Faire société à un moment où la société était profondément bousculée était vital. J'étais personnellement sur le campus de Schœlcher, et le campus qui était un lieu de vie ouvert nous a été fermé. Peut-être que les échanges qui auraient pu y avoir lieu auraient laissé des traces et favorisé une forme de transmission autour de la période que nous étions en train de vivre. Car j'ai fait l'expérience d'évoquer, récemment, février 2009, auprès de jeunes qui n'en avaient pas la mémoire, même de nom, février 2009 ne leur disait rien. Je referme juste pour ce soir cette parenthèse critique, mais vous êtes libre de la rouvrir et même de l'élargir à la fin de cette chronique. Aujourd'hui, en février 2005, nous sommes à un moment assez historique. Les revendications de la population martiniquaise portées par le RPRAC viennent bousculer les règles, encore une fois, du vieux jeu colonial. Le groupe Bernard Ayotte, sur lequel nous aurons assurément l'occasion de revenir au sein de cette émission, fait face à un vent de défiance et connaît un moment historique, loin de la paix sociale à laquelle il était habitué. Et le vieil ordre colonial, refusant de se laisser ébranler, use de ses outils pour réprimer la détention, la violence, la propagande. Ce que j'espère de ce moment, c'est que la question de la transmission ne soit pas reléguée au second plan. Que ce moment que nous vivons soit l'occasion de revenir sur les moments de répression, mais surtout de lutte qui ont entraîné ces répressions. Sur les leçons tirées par les plus anciens sur les réussites, mais également sur les échecs passés. Que ce moment soit l'occasion de réaffirmer la force que constituent nos diasporas au-delà des frontières, de créer des convergences. Pour l'heure, pour cette première de la reprise de Democrat Powell, nous fêtons nos Saint-Valentin à nous et nous réunissons pour célébrer la mémoire de tous les morts engendrés par les violences coloniales.
Eh bien, merci pour ta rubrique, pour ton introduction qui est très vaste. Et c'est bien de pouvoir rappeler, mais peut-être à définir, qu'est-ce que c'est pour certains auditeurs et auditrices les béquets.
Alors, les béquets, c'est une classe socio-raciale. D'ailleurs, quand je dis socio-raciale, je reprends un terme qui est utilisé par Jean-Luc Bognol dans son livre « La couleur comme maléfice ». C'est une classe socio-raciale qui détient la majorité de l'économie en Martinique. Il s'agit de blancs, donc ce qu'on appelle les blancs créoles, les béquets. Ce sont des gens qui détiennent la grande distribution, qui détiennent le secteur de l'import-export, qui détiennent une large part du secteur agricole, du secteur agroalimentaire. Et historiquement, c'est une classe qui se développe en fait entre eux, qui se reproduit entre elles et qui se développe entre elles. Et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard s'il se trouve que ces gens qui se reproduisent entre eux détiennent l'économie de l'île et le capital financier, voire foncier de l'île. C'est quelque chose qui a été organisé, c'est-à-dire que ces stratégies matrimoniales, ces stratégies de regroupement en groupe socio-racial ont clairement pour objectif de ne pas disperser le capital économique. C'était quelque chose qui était inscrit dans la loi durant l'esclavage et qui dans les pratiques s'est perpétué jusqu'à l'heure où on parle. Donc pour revenir très brièvement sur qu'est-ce que c'est les béquets, ce sont des blancs descendants d'esclavagistes qui détiennent l'économie de manière organisée jusqu'à l'heure actuelle.
Oui, nous aurons l'occasion de revenir autour de cette fois de la problématique, parce que pour moi c'est un problème, le comportement et les agissements des familles béquées en Martinique, voire en Guadeloupe, lorsque l'on abordera la faillite du crédit martiniquais, à savoir une banque. Comment a-t-elle été pilotée par les familles béquées, que ce soit Alain Hugues Despointes, d'ailleurs c'est de lui dont tu faisais allusion tout à l'heure, ainsi que la famille Ayotte et bien d'autres, ont profité de crédulité aussi des Martiniquais pour pouvoir mettre en faillite une banque et s'approprier un peu toutes les parts. Nous en reparlerons parce que c'est extrêmement important dans l'histoire de la Martinique, cette faillite.
Et notamment une banque qui, même lorsqu'elle était en état de marche, allait tout le temps dans leur sens, même lorsqu'il s'agissait d'opérations illégales.
Oui, et ce n'est pas pour rien que concernant Bernard Ayotte, que nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de mines, de minerais, très très importants, nous n'avons strictement rien excepté la canne. La force de travail des nègres telle qu'elle a été exploitée pendant des siècles et des siècles dans les champs de canne, etc. Et pour être un milliardaire, mais pour être parmi une des plus grandes familles de France aussi, je parle de Bernard Ayotte, donc il faut que nous puissions reparler de tout cela et expliquer le pourquoi du comment. Jeannot.
Oui, j'ai quelques chiffres là. J'ai quelques chiffres. Alors, leurs bénéfices...
Du groupe Bernard Ayotte, tu
veux parler. 4,5 milliards. 4,5 milliards. Et ils ne travaillent pas qu'aux Antilles quand même. Hein.
Oui. Non.
Ils se sont diversifiés. Je veux dire, les Antilles, ouais. La Conakry, Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Mayotte.
Ça, c'est pour ce qui est des territoires français.
Comment ?
Ça, c'est pour ce qui est des territoires dits français.
Oui, français, parce pour la France. Dire, pour, là, les... là où on peut, entre guillemets, mettre un petit coup d'œil.
Voilà, c'est ça.
Voilà, là, on peut mettre un petit coup d'œil, parce que je ne pense pas qu'en Afrique...
Voilà, il y a tous les territoires où il est implanté, oui, je où pense les chiffres je pense, sont pas, ne sont pas...
Je pense qu'en Afrique, c'est impossible d'aller chercher, chercher les chiffres dans les pays africains, je veux dire, qui sont bien implantés, je veux dire. Ça,
donc, concernant le groupe Bernard Ayotte, effectivement, c'est un groupe qui est extrêmement important. Bernard Ayotte a été mis en difficulté par quatre personnes qui ont porté plainte contre lui, très récemment. Ce sont les derniers événements qui touchent le groupe, entre autres. C'est par le fait qu'il ne voulait pas, alors que légalement, c'est demandé à ceux qui puissent déclarer les comptes toutes les années. Et depuis 2018, il ne faisait pas. Donc, ils ont été traduits, le groupe a été traduit en justice par ces quatre personnes qui ont fini par obtenir effectivement une espèce de victoire, pourrions-nous dire, puisque ça a été jugé, pas condamné, mais cependant c'était accepté de passer en justice, et que je pense que le délibéré, me semble-t-il, c'est prévu pour le mois d'avril. Donc c'est une première victoire, sachant que si nous revenons rétrospectivement en arrière, concernant le crédit martiniquais, la banque a coulé, a été mise en faillite, et jusqu'à ce jour, il n'y a aucun coupable, aucune sanction, aucune personne parmi les familles béquées qui ont été emprisonnées ou quoi que ce soit, ou à qui on aurait demandé des dommages et intérêts dans cette affaire-là.
Et il me semble même, j'ai plus le nom de ce fonds, mais qu'un fonds a été créé à l'occasion pour dédommager les bénéficiaires de la banque, enfin les usagers normaux de la banque qui auraient perdu leur fonds. Il y a un fonds public qui a été créé à ce moment-là, qui n'existait pas avant pour les banques en faillite et qui a été créé par l'État à ce moment-là.
Oui, mais en sachant que par exemple Bernard Ayotte en 2011, Nicolas Sarkozy l'a décoré pour les services rendus à la Martinique. Bien que si l'on regarde un peu le système de l'économie, ça renvoie aussi à la période post-esclavagiste, même si ça a toujours existé, c'est lorsqu'il y avait les rues Cazeneigre, à savoir que sur il y avait les maisons, les petites maisons où habitaient les esclaves, il y avait un seul service, un seul magasin qui existait qu'on appelait les Lelots. Les Lelots, ce qui c'est qui apportaient tous les produits les pour vendre et tout ça, c'était les familles Becquet. Donc résultat, la force de travail des ouvriers agricoles, puisqu'ils n'étaient pas esclaves à l'époque, mais on les qualifiait d'ouvriers agricoles, ce qu'ils allaient, c'était forcément acheter les produits des Becquet. Donc l'argent revenait à nouveau dans les poches des Becquet. Un circuit fermé. Cela se retrouve aussi pour Carrefour, par exemple, je n'y pas, hein, je fais pas un coup de pub, mais c'est un peu le même principe. Donc les travailleurs martiniquais ne font qu'aller consommer généralement dans ces grandes surfaces. Ces grandes surfaces appartenant au groupe Bernard Ayotte, donc c'est lui à nouveau qui reprend l'argent des Martiniquais pour pouvoir continuer à s'enrichir. Donc c'est toujours ce même circuit fermé que l'on retrouve un peu partout. Pour terminer, avant de faire une pause musicale, il y a Bernard Ayotte qui envisage, il y a pour certains Martiniquais qui connaissent le carrefour Génipa, Génipa c'est une zone où c'était à l'époque, comment appelle-t-on ça encore, c'était un lieu qui, où il y avait toute la végétation qui permettait une mangrove, qui a été complètement rasée tellement son puissant pour pouvoir mettre un hypermarché qui est celui-ci, et il désire réitérer la même opération pour installer à l'entrée de Vauclin un autre hypermarché de ce même genre pour permettre aux Martiniquais de pouvoir consommer aussi et de pouvoir continuer à enrichir de telles familles. Voilà, c'est ce que l'on pourrait dire, mais nous reviendrons plus en détail sur la faillite du Crédit Martiniquais, parce qu'il est un exemple extrêmement frappant et édifiant sur la force et la capacité à ces personnes-là de pouvoir faire ce qu'ils veulent en pays Martinique. Pause musicale, merci Sidi. Alors le prochain morceau que nous allons écouter, c'est pour, concernant la Guadeloupe, mais il me semble, non, c'est pas la Guadeloupe, c'est en nous. C'est un bon souvenir par rapport à ce qui s'est passé dans les années 2009, mais par rapport à cette pratique et cette période-là, on a observé qu'il y a eu un refroidissement dans les mouvements populaires, ne serait-ce qu'après les événements de 2024 en Martinique. Galère sur le 88.4.
Musique. Oui, Guadeloupéens, c'est l'heure qui arrivait pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. El Capé, vous vaisiez à nous.
De la yon bomba nou pa mene Pa rete le mwa pase Ou pa mache a balanse Se solusyon nou vin lache Mi se pepe sa sirife La pise men te zife Ki jaka pe se veto Ki ple pon nou pou rigolo
Awa nou se gano
sur la 88.4 pour certains ce morceau on ne peut que l'inscrire dans une historicité des luttes qui se sont déroulées en Guadeloupe, des luttes extrêmement importantes. Pour en arriver en Guadeloupe, il y a Gary qui a fait allusion à ce qui s'est passé au Moule en février 1952 avec l'assassinat d'ouvriers agricoles. On observe dans notre histoire que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Il y a eu même une chanson carnaval que probablement il y a Jeannot qui pourrait interpréter. C'est lorsqu'il dit « Mamichet commandé » et on ne lui donne pas les 2 francs qu'elle demandait d'augmentation.
Ça, c'est un morceau, c'est un morceau de Léonard Gabriel. Le,
voilà.
Monsieur Michel Cabaret de
Monsieur Michel Palébaï
de France.
Voilà, la grève barrée moins. Donc c'est, ça s'inscrit un peu dans cette logique et dans cette histoire, y compris musicale. Et on observe que chaque fois, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, il y a des manifestations qui se déroule. Pourquoi ? Parce que les esclaves à l'époque travaillaient dans les plantations, puis après, au niveau du savoir-faire, des compétences des affranchis, voire des Africains qui étaient libérés pour X raisons, parce qu'on reviendra à partir du 22 mai, etc., sur la libération des Africains devenus Martiniquais et Guadeloupéens à travers l'histoire. Comment ont-ils été contraints de pouvoir continuer à travailler dans les plantations, dans les champs des exploitants, des béquets. Donc, chaque fois, il y a eu des mouvements de grève, des mouvements de revendication pour demander à ceux qui puissent avoir une augmentation sur le salaire. Qu'est-ce qu'ils reçoivent en retour ? C'est le fusil, ce qu'a évoqué Gary tout à l'heure, et ça a été le cas en janvier 52, en février 52, en Guadeloupe. Donc ce sont des négociations pour fixer les salaires qui ne donneront pas satisfaction aux travailleurs. Il y a les différents syndicats qui lanceront un appel à la grève générale. Et dès le début février, les ouvriers de Capesterre-Belleau, de Petit-Bourg, de Sainte-Rose-de-Port-Louis, ainsi que ceux de l'usine du Darbussier, rejoignent la grève. Les fonctionnaires, eux aussi, en lutte pour l'augmentation de leur salaire depuis quelques mois, entrent dans le mouvement pour apporter leur soutien aux grévistes de la canne. À partir du 11 février, les accès de l'usine Gardel au Moule sont bloqués par les grévistes. Le patron Becquet, comme d'habitude, Amédée Aubéry, fait intervenir les CRS pour assurer le fonctionnement de l'usine. Et du 11 au 13 février, les CRS investissent la ville du Moule et terrorisent la population par des abus et autres brutalités. Nous arrivons à la date fatidique qui est le 14 février. Les travailleurs rigent des barrages à la sortie du bourg pour bloquer l'accès des chargements de canne à Gardel. Les CRS ont fait feu sur la foule rassemblée, faisant 4 morts. Dula, Constance, Capiton, Justinien, Dernon, Édouard, Cerdeau, François, ainsi qu'une dizaine de béquets et de blessés et 14 blessés. Vous voyez le lapsus révélateur. Bon, bref. Donc, nous constatons que ces victimes sont commémorées depuis chaque année. Le pouvoir économique des béquets et leur mépris social et racial sont restés actifs et sont toujours restés intacts jusqu'à ce jour. Chaque année, il y a des manifestations en Guadeloupe qui commémorent ce massacre à la mémoire des victimes et sont organisées par des organisations syndicales et politiques de Guadeloupe. Nous ne pouvons pas passer, effectivement, sur ce qui s'est passé en février 2009 en Guadeloupe. Pour certains, nous avons toujours ces événements qui se sont déroulés à cette période-là, en 2009, où la Guadeloupe a été le théâtre de mouvements sociaux majeurs, souvent appelé la grève générale de 2009 en Guadeloupe. Et cette grève a eu un impact considérable sur la vie sociale et économique de l'île. Il y a eu un collectif qui a été créé, que pour certains se souviennent, qui s'appelle le LKP, Lianage contre Profitation. Lianage, c'est l'assemblement, le rassemblement de différents collectifs, de différents partis, et syndicats, voire aussi des individus, des partis politiques, d'organisations et des artistes qui entendent lutter contre la vie chère en Guadeloupe, parce qu'on en revient toujours à cette même problématique de vie chère en Guadeloupe ou en Martinique. C'est une façon pour eux de dénoncer les situations de monopole et, comme son nom l'indique, de la profitation des acteurs économiques au détriment des consommateurs. Les revendications principales concernaient la réduction des prix des produits de première nécessité ainsi que la lutte contre les discriminations sociales et raciales. Donc nous rappelons qu'il y a eu un petit ouvrage qui est sorti à ce moment-là, qui est écrit par Chamazou, Glissant et autres. C'est concernant les produits de première nécessité. Ils étaient plusieurs à écrire ce petit ouvrage que je vous conseille. Et il était en lien à parler de tout ce qui était du panier de la marche, du panier de la consommatrice, de la ménagère, et de l'autre côté, tout ce qui pouvait être de l'ordre de valeurs complètement utopiques, pourrions-nous dire, mais qu'il fallait que cela puisse exister, être moteur à la lutte. Le 5 février 2009, il y a la grève générale qui débute et paralyse une grande partie de l'île avec des manifestations de masse, des blocages et des actions de protestation. Ce mouvement va durer plusieurs semaines et conduira des négociations entre le gouvernement français, les autorités locales et les représentants des grévistes. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 février 2009, c'est après un rassemblement de militants de Lianage contre Profitation, dont le mouvement était de plus en plus grainé par des violences urbaines, parce que forcément, hein, comme en Martinique, lorsque nous avons, lorsque Gary a évoqué septembre, novembre en Martinique, c'était un peu la même chose aussi. Alors que tout se séparait, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés, peu après minuit, et dans une artère de la ville à Pointe-à-Pitre, il y avait un syndicaliste qui sortait d'une réunion du collectif Lyonnais contre Profitation, qui sera assassiné. Il reçoit 3 balles. Il s'agit de Jacques Binot. Et jusqu'à ce jour, sur son meurtre, son assassinat, rien n'a jamais été fait. Et jusqu'à présent, on ne sait pas quel est l'auteur du tir. Et ça pose toujours des questions. Mais n'en demeure pas moins que pas de temps après, il y aura le 5 mars, c'est la fin de la grève, il y aura une signature avec le préfet et le collectif LKP d'un accord de 165 points de revendication pour améliorer le pouvoir d'achat. Mais nous verrons bien que cela sera en vain. Ce sont les accords, fameux accords Binot, et que nous voyons que nous sommes toujours dans la même problématique de revendication de la vie chère. La seule question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est il y a eu ce mouvement à l'époque 2009, avait démarré, c'était en Guyane au mois de décembre. Ça fait tache d'huile, c'est allé en Martinique, en Guadeloupe, puis après ça s'est étendu en Martinique, puis après jusqu'à La Réunion. Cette année, en 2024, il y a eu le mouvement contre la vie chère a démarré en Martinique, et c'est cantonné à la Martinique, il n'y a pas eu de tache d'huile comme les années passées. Alors, Gary, est-ce que tu aurais pu avoir une hypothèse, poser une hypothèse? Pourquoi il n'y a pas eu de répercussions de...
Pourquoi ça n'a pas fait traîner
Oui, tache d'huile, comme en 2009.
Moi, déjà, j'ai l'impression qu'il y a, pour ceux... Parce que je parlais tout à l'heure de cette mémoire de 2009 qui ne s'est pas transmise, dont moi, j'ai eu le choc récemment de constater que cette mémoire ne s'est pas transmise. Je pense que pour les gens qui s'en souviennent, il y a un trauma de 2009. C'est-à-dire que 2009 a été un grand moment. À vivre, c'était un grand moment. Et puis ensuite, il y a eu le retour à la réalité et de voir qu'au final, oui, des négociations ont été menées, des accords ont été signés, qui n'ont pas été actés, qui n'ont pas donné lieu à de véritables changements. Et que force est de constater qu'à l'heure où on parle, la situation en termes de prix sur les marchés, en termes de paupérisation de la population, il n'y a pas eu de suite favorable pour nous à ces événements. Et donc je pense que quand je parle de trauma, c'est peut-être un mot un peu fort et peut-être un peu provocateur, mais je pense que moi, personnellement, je suis issu d'une génération qui a vécu cette désillusion et qui n'a pas trop su comment retomber sur ses pattes, quoi faire de cette désillusion, quoi faire de cet échec et quoi faire de ce constat d'échec. Et que l'union des territoires, qui a été assez naturelle, assez logique, qui a été assez instinctive à ces moments-là, je pense que on est à un stade à l'heure où on parle où on a été fragilisé dans nos convictions, on a été fragilisé dans nos positions, et qu'à l'heure où on parle, je pense que les conditions d'une union, les conditions d'une convergence sur ce genre de questions rendent tout ça difficile, à mon avis. C'est ma lecture des choses.
Oui, donc pour compléter ce que tu peux dire, il y a Elie de Motta, pour certains s'en souviennent, c'est le porte-parole du LKP. LKP, il y a un âge contre profitation. Pour lui, dit-il qu'on assiste à une inaction prolongée, ou plutôt à un maintien du peuple de Guadeloupe dans l'asservissement. À la signature de l'accord, l'État français a inventé les États généraux de l'Outre-mer et ils ont créé des ateliers. Ils ont donné aux Guadeloupéens membres des ateliers des Légions d'honneur en termes de compensation pour qu'ils trahissent les accords LKP de 2009. Aujourd'hui, 15 après, tout est à faire parce que rien n'a été fait. Et tout ça pour ça, comme diraient certains Guadeloupéens, dont j'ai lu. Et après 44 jours de ferveur populaire, de solidarité et d'espoir, les Guadeloupéens peinent donc à voir ce que cette grève générale a profondément changé pour eux. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que aujourd'hui, la Guadeloupe est toujours frappée par un chômage endémique qui avoisine les 30% de la population et affecte principalement les jeunes, avec toujours ce problème de prix beaucoup plus supérieur en Guadeloupe qu'en France métropolitaine. Voilà, alors tu voulais ajouter quelque chose ?
La vie chère est de 40% de plus qu'en métropole, aux Antilles, en moyenne, selon les chiffres de l'INSEE.
Alors, moi, ce que je souhaiterais, après, oui, d'après, c'est de faire peut-être un retour sur la Martinique, parce que je souhaiterais, toi qui étais en Martinique au moment des événements, que tu puisses en dire quelques mots. Comment as-tu vécu la situation? Parce que lorsque, en Guadeloupe, on constate qu'il y a eu des violences urbaines, en Martinique, ça a été la même chose, et j'ai l'impression que les médias s'arrêtent beaucoup plus sur cela, plutôt que les revendications portées par le peuple martiniquais.
Moi, comment j'ai vécu la situation? Donc, c'est vrai que j'étais en Martinique, mais j'y suis arrivé avant ce qu'on a appelé des violences urbaines. Alors, déjà, ce qui s'est passé, et ce qui est quand même une insolence assez considérable, c'est que des CRS ont été envoyés chez nous. Des CRS ont été envoyés en Martinique. Historiquement, il est interdit. Les CRS sont une unité de la police interdite chez nous. Parce que depuis les émeutes de décembre 59, la responsabilité des CRS dans les troubles avait été avérée. Et bon, c'était aussi une mesure de paix sociale. Mais pour acheter cette paix sociale, une des mesures qui avait été adoptée, c'était de supprimer les unités de CRS dans les territoires d'outre-mer. Donc en Martinique en premier lieu et plus largement dans les territoires d'outre-mer. Donc déjà, l'envoi des CRS à ce moment-là a questionné les gens. C'est-à-dire que même en 2009, on a envoyé des gardes mobiles, on n'a pas envoyé des CRS. Donc ça ne veut pas dire que la réponse est moins violente physiquement, mais en tout cas, symboliquement, la violence est assez considérable. Ouais. Et du coup, pour revenir à ce qui s'est passé récemment sur les violences urbaines, je pense que déjà, on parlait. Déjà, dans la population, parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui sont dans la rue, c'est les gens qui sont dans la rue et qu'on voit impliqués dans ces violences, entre guillemets, ce sont des gens qui sont impliqués dans la lutte. C'est pas la population. La population est là, la population en parle, la population prend parti, mais la population n'est pas dans la rue à se confronter à la police. Voilà, il y a pas un mouvement général de la population contre la police à ce moment-là. Toujours est-il que ça questionne les gens. Pour l'avoir vécu à ce moment-là, ça questionne les gens, le fait qu'il y ait des CRS qui soient envoyés chez nous. Et surtout, le moment où les CRS chargent des manifestants gratuitement, sans qu'il n'y ait eu de réelles provocations, de réels affrontements physiques avant. Moi, je me souviens, donc le sentiment que je peux vous donner de l'intérieur, c'est que moi, c'est très particulier parce qu'en fait, c'était moi, je suis parti le lendemain de ça. C'est-à-dire qu'en fait, les violences ont commencé quand moi, j'étais dans l'avion et je les ai apprises en atterrissant à Orly. Mais la journée qui a suivi ces violences, les provocations policières et les violences policières, il y avait un calme assez plat en Martinique. Il y avait un calme vraiment assez, assez pesant. Et comme si, en fait, on avait l'air de se demander qu'est-ce qui vient de se passer. Ok, déjà, on se remet à peine du choc de nous envoyer des CRS. Et en plus, ces CRS sont chargés. On est à l'ère des réseaux sociaux. Donc, en fait, on voit les vidéos. On voit les CRS chargés de manière totalement libre et gratuite. Donc, voilà. C'est un peu ce que je peux en dire.
Mais ce n'est pas n'importe quelle compagnie des CRS. C'est la compagnie 8, me semble-t-il, qui ont été aussi formés pour mater les violences urbaines ici en France, qu'ils sont envoyés spécialement dans ce but-là.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, avant même qu'il ait été question de violence, c'est eux qu'on a envoyés sur place.
Donc, quand on parle de violence, de mort, puisque nous avons parlé de ce qui s'est déroulé en 52, février 52 en Guadeloupe, mais en Martinique, l'affaire Chalvet. Alors, Gary, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Parce que là aussi, il y a eu février 74, tel que tu le disais, présenté dans ton introduction, mais aussi il y a eu deux victimes, hein, Ilmani Serrier, dit Raynor, ainsi que Marie-Louise. Bon, donc, c'est une situation qui est, à mon sens, que ça date de 1974, c'est un peu proche, et cela s'inscrit un peu dans l'histoire des luttes menées toujours par les ouvriers agricoles, et comment ces ouvriers agricoles qui demandent à être augmentés, ils ne font que recevoir le bâton, plutôt que, qu'autre chose. Je n'ai même pas le bâton, excusez-moi. Ce sont des fusils et des balles qu'ils reçoivent. Alors, quelles sont les circonstances à ce moment-là? Est-ce que tu peux éventuellement rappeler un peu ce qui s'est passé?
Alors, concrètement, moi, ce qui me marque de ces événements, ce que j'ai envie de souligner, c'est l'aspect actuel des revendications des travailleurs à ce moment-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des revendications liées aux droits syndicaux, aux droits salariaux et aux conditions de travail. Et moi, ce qui me marque aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a aussi des revendications dans les conditions de travail. Il y a aussi des revendications sanitaires, notamment les travailleurs qui ont été attaqués durant le 14 février à Chalvet réclamaient aussi l'arrêt d'emploi de produits toxiques dans le travail, ce qui renvoie aussi à une actualité
au chlordécone.
Donc moi, ce qui me marque au final, c'est comment la répression est toujours une réponse et comment les revendications à des revendications qui au final sont restées les mêmes. Voilà, c'est beaucoup ça qui me marque.
Donc concernant Ilmani, vous entendrez un peu Colobarts lorsque nous écouterons février 74, il en parle ainsi que Marie-Louise. Donc on sait que Ilmani a été tué par les gendarmes. Quant à Marie-Louise, on l'a retrouvée quelques temps après, complètement boursouflée, elle avait été tapée, tabassée, et que l'on ne sait jusqu'à présent par qui et comment les choses se sont passées. Bien sûr, l'hypothèse la plus plausible, c'est de dire que probablement, que ce sont les gendarmes qui ont dû un peu le tabasser ainsi.
Mais il y a des marques de torture qui ont été retrouvées sur son corps.
Donc là, à ce moment-là, il y a eu bien sûr la population martiniquaise lorsqu'ils ont retrouvé le corps de Marie-Louise. On continue à manifester de plus en plus. Donc il faut, juste avant de passer février 74, nous allons remercier le camarade Lindor pour les informations qu'il nous a communiquées par mail. Le chanteur martiniquais Colobarts a dédié ce morceau que nous a écouté février 1974 à cette affaire que nous avons écouté. Et de même, il ajoute qu'il existe un documentaire, Chalvet, la conquête de la dignité 2014, Saint-Bon, écrit et réalisé par Camille Maudouèche, ainsi qu'un livre sur le sujet, Chalvet, février 1974, suivi de 102 documents pour servir à l'histoire des luttes ouvrières de janvier-février 1974 à la Martinique, de Édouard Delépine. Avec notre ami Colo, rappelons aussi que le mois de février, c'est aussi le mois de l'histoire des Noirs, qui n'est que l'histoire, pas que l'histoire de nos ancêtres, c'est le mois de commémoration de cette histoire, The Black History Month. Il fallait que l'on puisse rappeler aussi l'importance de ce mois aux États-Unis, au-delà du fait qu'il y a un suprémaciste à la tête des États-Unis aujourd'hui. Ils sont deux avec son compère. Musique Colobarts, février 74. Merci.
Maman, écoutez ça qui passait. C'était en février 1974. C'était en février 1974. Adam Chanson Nana, tout près comme une basse pointe, à subitation Chalvet. T'es bêté ni pour taillot, à subitation Chalvet. T'es bêté ni pour taillot. Ouvrier agricole, t'es qu'à manifester, ou bétier t'es augmenté. Les journées manana, ou bétier t'es augmenté. Les journées manana, vérité pété tête colon, qui préférait rester serré. Et puis yolé, yo négocié, yo crié policier. Olé, yo négocié, yo crié policier, le policier qui fait tes pinèg, cachilé avant aller. Alors vous remplacez, yo voyez mitrailleur, alors vous remplacez, yo voyez mitrailleur, mitrailleur qui paniche. accepté mission. Puis n'est que avancé. Puis belle réelle qu'a tiré. Puis n'est que avancé. Puis belle réelle qu'a tiré. Dès qu'un mal a tombé, il m'a nié, puis Marie-Louise. Dès qu'un mal a tombé, il m'a nié, puis Marie-Louise. Il m'a nié, tombé, chalvé. Marie-Louise tombé après. C'était en février.
Maman, écoutez ça qui passait, c'était en février 74, cela démarre comme ça. C'est de dire au peuple d'écouter ce qui s'est passé à Chalvé. C'est une façon de transmettre ce pan de l'histoire martiniquais aux uns et aux autres à travers ces paroles, ces propos qui sont très profondes. Et d'ailleurs, Colobart, c'est quelqu'un que nous apprécions plus particulièrement. Alors, nous avons déjà parlé de ce qui s'est déroulé en Martinique, abordé, juste défloré, pourrions-nous dire. Donc, le responsable de tout ça, du RPRAC, Petitot, comme vous le savez, il a essayé de franchir les portes de la préfecture pour rencontrer le ministre, me semble-t-il. Et ce dernier, à l'issue de ça, a été incarcéré pendant quelques jours. Il a été libéré, mais devrait à nouveau repasser devant le tribunal bientôt. Parallèlement à ces détentions sociales, ils ont émergé en raison de la baisse du budget du ministère des Outre-mer, qui connaîtra une réduction de 9% en 2025, soit une baisse de 250 millions d'euros. Donc c'est logiquement que cette réduction qui suscite des inquiétudes parmi les parlementaires et la population des territoires ultramarins, notamment aussi en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. Ces événements dont on vous a parlé illustrent la persistance des inégalités économiques en Martinique et en Guadeloupe et dans les Outre-mer et la détermination des habitants toujours à lutter contre la vie chère. Donc, nous allons passer sur la famille Ayotte puisqu'on en a suffisamment parlé pour le moment, mais nous reviendrons toujours là-dessus à un autre moment.
On a oublié des points aussi.
Mais nous allons reparler lorsque nous parlerons du crédit martiniquais au cours d'une autre émission.
Voilà, faire une émission
donc,
sur chacun.
Donc nous allons reprendre le cours de Démocaparole avec les informations. Ouais. Alors c'était juste pour vous rappeler rapidement qu'il y a eu la création du Front international de décolonisation. Le Front souhaite notamment inscrire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Corse sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. La création de ce Front intervient alors que Paris dénonce les ingérences azerbaïdiennes sur les territoires ultramarins. Donc il y a 12 mouvements indépendantistes des territoires d'outre-mer français qui ont fondé à Nouméa ce Front pour conduire leur nation à la pleine souveraineté. Parce qu'à travers l'exemple des indépendances africaines, on observe que ce sont des pays qui sont indépendants, mais qui ne sont pas souverains chez eux. Ce sont toujours les pays colonisateurs qui gèrent un peu leur situation. Mmh. Donc ce qui est important à retenir, c'est cette position qu'ils détiennent, qu'ils disent, qu'ils veulent être une nation, mais ils désirent être réellement souverains chez eux. Donc peut-être la question, certains doivent se poser, pourquoi la Corse est-elle inscrite dans le cadre de ce front? Nous rappelons qu'en Corse, il y a tout le mois d'août, pendant des années, il y a les rencontres accordées au mois d'août des mouvements indépendantistes. Et les Corses ont l'habitude d'imiter, à l'époque c'était les LKP, ce sont les Martiniquais, les Kanaks et autres, qui se rencontrent pour essayer d'avancer, de faire progresser leurs idées et leurs positions par rapport aux pays colonisateurs. Et toi, tu veux dire deux mots, quatre paroles au sujet de l'histoire des migrations corse-antilles?
Voilà. Donc, la Corse et les Antilles sont distantes de 6800 km, soit plus de 8 heures d'avion, ce qui n'est pas un obstacle pour certaines familles. Les familles corses qui ont émigré d'abord vers Porto Rico et ensuite vers les Caraïbes, les petites îles, c'est-à-dire la Martinique, Guadeloupe. Alors, on peut s'interroger sur la présence de Corses en Martinique, en Guadeloupe. Et en cherchant un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a une forte identité culturelle. La Corse et la Martinique, la Guadeloupe ont une identité culturelle très marquée, façonnée par leur histoire, l'insularité, les traditions, l'attachement profond à leurs racines et leur fierté identitaire. usage d'une langue régionale importante, la Corse ou le créole. Et donc, dans le cas de ces langues vivantes très pratiquées, en parallèle, sont un symbole de résistance culturelle. Une musique identitaire qui est très partagée aussi. La musique corse est connue pour ses polyphonies, ses chants traditionnels comme la pagaïla, et souvent porteur de messages historiques ou politiques. Aux Antilles, c'est le groka, la biguine, le zouk sont des genres musicaux qui reflètent l'histoire du peuple antillais, sa résistance et son esprit de liberté. Ils ont aussi une histoire marquée par la lutte et la résistance. Le Corse a longtemps lutté pour son autonomie face aux différentes dominations et occupations génoises et françaises. Les Antilles ont connu l'esclavage, la colonisation et la lutte et la résistance a marqué leur histoire. Dans ces deux territoires, il existe un courant autonomiste et indépendantiste fort, alimenté par la volonté de préserver leur volonté de leur culture et de défendre les intérêts locaux. Pour preuve, les articles parus dans le journal Uribombo qui affirme son soutien indéfectible à toutes les victimes du colonialisme en Kanaky, en Martinique, ainsi que les nations peuvent pour que les nations puissent s'épanouir librement dans la paix et la souveraineté. Ce que disait tout à l'heure Jean-Marc. Alors, ils ont aussi de commun une gastronomie riche et métissée. La Corse met en avant les produits locaux comme la charcuterie, le fromage, la châtaigne, les herbes sauvages. La cuisine antillaise est un mélange d'influences africaines, européennes, indiennes, avec des produits comme le colombo, les acras ou le boudin créole. Dans tous les cas, on retrouve une gastronomie authentique marquée par des produits du terroir et des traditions locales. Un rapport fort à la terre et à la mer. La Corse, comme les Antilles, sont une île où la nature est omniprésente et les habitants ont un lien profond avec leur environnement. Pêche, agriculture, tradition rurale et respect de la mer sont essentiels dans les deux cultures. Un attachement aux traditions et aux valeurs familiales. La famille occupe une place centrale dans les deux cultures avec un fort respect pour les anciens, une transmission des traditions de génération en génération. La loi du silence, tabou et dans certains cas de solidarité, vestige de l'esclavage et de l'occupation. Économiquement, aussi, ils sont assez liés. C'est-à-dire le chômage donc règne dans toutes ces îles, autant en Corse qu'aux Antilles, suite à un manque de débouchés économiques pour certaines qualifications, la population restant dans les îles ou migrant dans la métropole ou le continent. Forte proportion s'est tournée vers des emplois militaires, douane, armée, etc., ou fonctionnaires, facteurs, gardiens de musée, impôts, ou certains commerces, les navigateurs. À signaler que de nos jours, l'orientation a changé, grâce à l'effort scolaire et universitaire de la jeunesse qui s'est tournée vers des professions médicales, enseignantes, de justice, etc. En résumé, malgré les différences et malgré les origines influentes différentes, la Corse et les Antilles partagent un esprit d'attachement à leur culture, une langue régionale forte, une musique engagée, une histoire, une résistance gastronomique typique. Ce sont des territoires où l'identité et la fierté culturelle sont au cœur de la vie quotidienne.
Bien que un petit bémol, n'est-ce pas Gary, lorsque l'on voit que Napoléon, le rétablissement de l'esclavage, hein, donc il a tenté et qu'il a perdu contre les Haïtiens ses troupes, mais que c'est lui qui a voulu rétablir et qui a rétabli l'esclavage après.
Oui.
Mais bon, il y a ça.
Oui, et, c'est ce que dit l'histoire.
Et son épouse,
voilà,
Joséphine.
Était... Ouais.
Mais Joséphine, il y a les Martiniquais qui ont réglé ce compte en lui coupant la tête sur la statue de la savane, n'est-ce pas?
Mais bon. Napoléon, en fait, on juge plus une époque qu'un homme. C'est-à-dire que, c'est vrai, on regrette l'esclavage qu'il a renouvelé, mais en fait, ça a été pour concurrencer les Anglais et les Hollandais qui, eux, pratiquaient l'esclavage et avaient une main-d'œuvre gratuite.
Dans ce cas-là, voilà. si on juge plus une époque qu'un homme, ne condamnons pas l'esclavage.
Tu me fais penser un peu à Max Gallo, à cet homme-là, cet historien. Au moment du bicentenaire de Napoléon, on lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous pensez de Napoléon qui a rétabli l'esclavage? La réponse qu'il a fait, il dit, comme chaque homme, il y a une partie ombre, une partie lumière, et que lui, il a privilégié la lumière sur la
personnalité. Donc moi, j'avais lu que c'était, point de vue, concurrence avec les Anglais.
Oui, mais l'esclavage était une question économique.
Voilà, c'est comme les Américains, quand ils ont aboli l'esclavage aux États-Unis, les Américains du Nord n'aimaient pas plus les Noirs que ceux du Sud. mais c'est que économiquement, ils ont bien pu scier la branche de l'économie
du sud. Aux Antilles aussi, quand on est passé de l'ère agricole à l'ère industrielle, des sucreries, des usines à rhum, ils sont plus, c'est plus intéressant d'avoir du personnel qu'on ne paye pas, qu'on se sert de l'eau et qu'on
n'est pas les esclaves. Je condamne tout à fait le Napoléon et sa remise de l'esclavage.
Merci de nous rassurer parce que nous avons besoin à démocrate parole d'entendre qu'effectivement qu'on n'excusera pas une faute aussi.
On n'excuse pas, on explique le pourquoi de la chose. Voilà,
c'est une explication. L'esclavage étant un système économique, beaucoup des décisions prises sont économiques, sont d'ordre économique.
Voilà, comme vous savez, démocrate parole, nous nous intéressons aussi à ce qui se passe en Kanaky. Donc il y a eu le grand 4e congrès du FNKS qui a posé ses conditions à la reprise des négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, des Kanakis. Il y a une majorité des militants indépendantistes du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste qui est d'accord pour renouer le dialogue avec l'État sur l'avenir institutionnel de leur pays. Cependant, c'est bien sûr à certaines conditions, c'est-à-dire parler des arrestations abusives, les morts, la justice partielle, des militants qui n'ont plus confiance en l'État français, mais ils ont choisi de repartir sur la voie du dialogue, annonce Dominique Flouki, le secrétaire général de l'Union calédonienne, en clôture du 44e congrès du FNKS le dimanche 26 janvier. Donc ils désirent renouer le dialogue, mais ce qu'ils pensent, c'est effectivement parlent encore de souveraineté dans leur pays, ils parlent d'indépendance, ils parlent surtout aussi des prisonniers, que ce soit les Chrétien qui se retrouve déporté en détention provisoire à Mulhouse, accusé d'avoir joué un rôle dans les exactions commises à partir de mai 2024. Donc il demande à ce que tout cela puisse être pris en compte dans le cadre de la balance avec cette reprise de contact avec l'État français. Nous allons passer en Guadeloupe. Alors, en Guadeloupe, il y a une information qui m'a interpellé, hein, comme ça se passe aussi, les situations peuvent être similaires avec celles de Martinique. Il y a des milliers de constructions illégales qui existent le long de la bande littorale appelée les 50 pas géométriques. Cette zone de 80,20 mètres, initialement destinée à protéger le littoral des invasions et comme réserve de bois pour la marine, est aujourd'hui un enchevêtrement de complexité juridique et historique. De nombreuses familles y résident depuis des générations sans titre de propriété, malgré parfois le paiement de taxes foncières. L'agence des 50 pas géométriques, créée en 1996, peine à régulariser la situation avec seulement 1000 dossiers sur 6500 demandes traitées. L'érosion côtière et le changement climatique exacerbent les problèmes menaçant les habitations le long du littoral. Il y a une partie de la bande sera transférée à la région et au conservatoire du littoral en 2025 cette année pour mieux gérer ces espaces. Les solutions pour régulariser ces habitants et gérer les risques demeurent complexes et urgentes à mettre en place, tel que l'on peut le penser. En Martinique, c'est un peu la même problématique concernant l'occupation des 50 pas géométriques. Alors, toujours en Guadeloupe, dans une enquête publiée à l'automne, le quotidien L'Équipe avait fait état de dépenses luxueuses et conflits d'intérêts au sein de l'UNSS. Le journal avait notamment fait état d'un versement par Bahreïn de 5 millions d'euros à la Fédération internationale de sport scolaire pour l'organisation d'un événement sportif mondial d'ampleur rassemblant des ados pratiquant le sport scolaire. Et cela s'est tenu fin décembre. Donc il y a le ministre de l'Éducation nationale qui est intervenu pour condamner un peu ce qui s'est passé, surtout le détournement de fonds qu'il y a eu. Puis, dernière information concernant la Guadeloupe, présentée comme le chantier de la décennie, celui qui doit permettre à la Guadeloupe de devenir le hub portuaire des Antilles françaises, les travaux d'extension du terminal de Jarry sont au point mort. En cause des difficultés géologiques qui risquent au final de coûter plusieurs millions d'euros, l'affaire tombe au plus mal pour le grand port maritime qui avait annoncé une livraison des travaux pour le mois de septembre prochain. Or, il y a urgence. Trois nouveaux portiques sont attendus pour la fin du mois de mai. Selon une source portuaire, le retard et les surcoûts engendrés pourraient coûter quelque 15 millions d'euros. 15 millions d'euros à l'évidence non prévue et qui viendraient s'ajouter à une facture déjà lourde de 135 millions d'euros. Donc, vous constatez la gabegie. Puis après, la question se pose. concernant, comme vous le savez, la montée des eaux. À l'époque, il y a déjà quelques années en arrière, le professeur Chaffache disait, au sein d'une conférence qu'il a faite à l'université de Schœlcher, disait-il avec un haut fonctionnaire français, qu'il y a, que la montée des eaux n'épargnera pas nos pays, n'épargnera pas toutes les îles. Et la première île qui sera inondée, qui sera menée à disparaître, c'est l'île de Bahamas, l'île qui a été découverte la première par Christophe Colomb. Donc, au fur et à mesure, conseillait-il que les Martiniquais et les Guadeloupéens puissent quitter le littoral marin pour pouvoir se retrancher de plus en plus vers l'intérieur avant de pouvoir complètement voir leur maison, leurs habitudes aussi complètement disparaître. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et si tu as entendu encore parler de cela, ne serait-ce qu'à Saint-Anne, quand on voit que le cimetière qu'il y avait à flanc de colline, et au fur et à mesure, il a tendance à tomber dans l'eau, à s'écrouler, et que le cimetière a été reculé à l'intérieur pour permettre aux Saint-Annais de pouvoir visiter leurs morts et de pouvoir continuer à enterrer leurs défunts. Oui ? Donc. Non, tu n'as rien à dire. D'accord.
J'avais vu l'ensablement aussi du port de Grand-Rivière, qui avait été refait, soi-disant, à grand coup de millions d'euros, et il a été réensablé aussitôt.
Voilà. Donc, nous allons passer rapidement, parce que l'heure tourne. Alors, athlétisme. Il y a les Antéolianais, tu as vu?
Oui, ils ont fait le show au Mexique Indoor de Paris. Ce dimanche 9 février se tenait le Métis Indoor de Paris 2025 à l'Accor Arena de Bercy dans une ambiance de feu. Les Antillais, Willem Bolossian et Laetitia Bacté et la Guyanaise Jemina Joseph ont brillé. Malheureusement, la sprinteuse guyanaise Jemina Joseph a établi deux excellents temps aux 60 mètres, dont un nouveau record personnel ce week-end du meeting indoor à Accor Arena de Bercy. Mais la tête s'est baissée à la fin de la seconde course. Elle met un terme à sa saison hivernale et c'est terminé. Dans la saison hivernale pour la sociétaire de l'Amazonie Athletic Academy, a indiqué son coach Gaëtan Tarifia. Voilà.
Donc tu voulais aussi parler et faire un hommage, non, tout à l'heure, avec Gamma,
Vincent Gamma aussi. Voilà, on va, je le fais. Alors, Vincent Gamma, tout le monde peut le connaître sur le nom de JBB. Il est décédé à l'âge de 90 ans. L'ancien coureur cycliste était interprète de la chanson Pédaler, qui rythmait les courses. Sa chanson avait bousculé le monde du cyclisme dans les années 70. Pédaler en cas pédaler, retracer l'ambiance du peloton. En tant que chanteur de gros cas, il racontait avec humour les exploits des légendes de la route. Vincent Gamma, alias JBB, savait de quoi il parlait. Lui-même, coureur à l'époque initiale, puis entraîneur de la JCPL et de la PDC. Le bonhomme de vieux bourg ne passait pas inaperçu à proximité du peloton. Il a chanté le cyclisme, mais pas seulement. Les puristes de la tradition se souviennent aussi de Dlococo et aussi Paul Comaïs. Pas un maïs.
C'est pas un maïs, mais c'est comme un maïs qui s'en va. C'est pas un maïs, c'est comme un maïs. Mais tu es trop jeune pour avoir connu ça, non?
Oh, on va connaître ça.
On va connaître ça. Ou c'est un petit maïs. Ou c'est un jeune boy.
On va écouter un peu le son de on va écouter le son de pédaler. Un gros cas. Il va partir.
Galère 88.4. Démo 4 paroles. Là, nous.
Ah, c'est pas Chimamin, c'est pas Joby Bernabé Chimamin, c'est pas toi.
Comment? Non, mais c'est le morceau qu'il a mis là, donc il faut voir.
Sur la clé USB.
Ah, ok.
Oui. Ok. Donc voilà, nous avons trois techniciens là autour de nous, mais bon, donc il y en a deux qui sont en apprentissage, un qui est plus vif que l'autre, mais voilà, mais c'est garanti, direct.
Eh bien oui, alors je viens de prendre le relais, en tout état de cause, quoi qu'il en soit, il faut faire le gymkhana pour arriver à la tête du peloton, c'est un gros peloton compact qui arrive, et direction de Pointe-à-Pitre, il y a Santuné, Molière, les Paulines, Babila, Jacobin, les Petits, Marie Galante, Gagne, Charles Robert, les Métropolitains, Martinez, tout le monde est là. Eh bien, il y a Dorange, Berthe, Bozan, Etou, Azares, Galtier, Cassagne, tout le monde est là dans le gros du peloton, et bien on aborde le pont de la Gabas, c'est pour une question de démarrer. Molière pour ça, où quelqu'un va te servir, et bien finalement, eh bien je ne peux pas vous dire parce qu'il y a un caméra qui m'empêche de voir de l'autre côté de la chaussée, eh bien il faut faire le gymkhana pour essayer de passer, eh bien tout état de cause,
ou pas Pauline ou pas Molière, pas Charles Robert ni Jacobin, Tifila, yo dis-moi, on ka pédaler, pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
pédalant, ka pédaler,
pédaler,
ou pas Pauline.
Donc nous allons poursuivre alors très rapidement des mots quatre paroles le carnaval. Le carnaval c'est un mètre plus long. C'est Gary qui a connu le carnaval, non? Le tout petit mamaille et tu as fait le carnaval. Tu as fait le négocio?
J'ai pas fait le négocio, j'ai beaucoup vu les négocio. Mais d'ailleurs les négocio c'est plus comme c'était avant, c'est un gros mouvement maintenant. Ah. Avant c'était quelque chose d'assez marginal, c'était quelques personnages qu'on voyait s'immiscer un peu partout. Maintenant c'est vraiment un gros mouvement très familial et c'est vraiment des grosses masses de personnes maintenant.
Est-ce que j'en vois ça? Du moins, jamais vois ça, les malpropres.
Ah oui, bien sûr, les malpropres, ça c'est surtout en Guadeloupe, ça gagne.
Martinique, moi pas jamais. C'est quoi?
Les malpropres, c'est le matin, il y a des filles tout nues.
Ah non, j'ai jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça.
Non. Il y a grimé, il y a des filles tout nues.
Ok, ouais. Okay. Donc, et puis sirop batterie.
Oui.
Comment?
Et puis sirop batterie, avec du sirop batterie.
Oui, oui.
Ok.
Et oui. Négro sirop.
Négro sirop, oui. Okay. Donc, négro sirop. Mais, et dans les voitures, est-ce que tu es monté dans les voitures pour faire le carnaval?
Brad Jack.
Bah oui.
Oui, ça j'arrivais même.
Et de, qui ça?
Ça m'est déjà arrivé.
Mais oui, et puis ça t'a mamaille, et ça t'a camarade.
Non, ça t'a oui, tonton en camarade ta main.
Ah bon.
Mais t'as vu les Brad Jack de maintenant ou pas?
Non.
Parce que toi, ça fait longtemps, toi, c'est les vieilles voitures que t'as vues.
Oui,
maintenant, les Brad
oui.
Jack, c'est devenu un truc sérieux, c'est des gens qui... C'est plus des vieilles voitures, les Brad Jack. Hein.
C'est que c'est le 4ème manche de café rallye et puis au Brad Jack.
Il n'y a pas à faire rallye, mais il y a fait tuning. C'est vraiment, c'est considéré que c'est tuning.
Ah bon. Donc, puis sinon, après, les 3 jours sont respectés avant la fin du carnaval.
Les 3 jours.
Oui, lundi, mardi, et mercredi.
Les thèmes restent les mêmes. Le mariage burlesque, oui. Le diable rouge, le mercredi décembre.
Je crois que la fin, c'est le 5 mars. Le mercredi décembre, c'est le 5 mars.
Et est-ce qu'il faut que pour les petits, les enfants, quand ils sont tout petits, lorsqu'ils ne sont pas baptisés, on les interdit de les déguiser en rouge? Est-ce que cette tradition est toujours maintenue? Parce que ces mamans-là, ces mounas, ils ont dit diable qui prend un coyot. Alors, donc, il faut attendre qu'ils soient baptisés.
C'est la première fois que j'entends ça.
Ah bon? Oui, toi tu n'as pas connu cette période-là. Parce qu'il ne faut pas même t'écaler l'église.
Ah si, pour aller à l'église, moi aller à l'église. Hein.
Ah bon, ça va, alors tu me rassures un peu. Je me suis dit que certaines choses se perdaient. Donc, nous allons faire juste, avant de nous quitter, nous allons écouter un morceau de Kassav, Soleil. Soleil, c'est pour toutes les personnes que nous avons déjà énumérées et pour toute leur famille. La chanson de Kassav nous dit en l'espèce que nous espérons que le soleil puisse pas réparer, mais puisse apporter un peu de baume à toutes ces personnes-là qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance. Alors, écoutez, Kassav et puis Monsoa, soleil.
«
espéré, là y'a pas dans un soleil qui a chauffé, un soukep éclairé, tchamoun qui mauvais, tchamoun qui passe en même dans via.
J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé à notre compagnie. Sidi peut-être dira deux mots sur les retrouvailles des mots quatre paroles avec Radio Galère ou bien d'autres. Donc nous sommes prêts à accepter toutes les critiques, cela va de soi. Alors, avant de nous quitter, Jeannot, ce que nous allons proposer, c'est de faire un peu un profil d'un athlète anti-yoguanais, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse les oublier. Il y a les Jeux Olympiques, mais ce sont des gens qui sont méritants, qui s'entraînent de façon permanente. Donc, autant en parler, comme ce soir, ce que nous allons faire. Et le mois prochain, comme il s'agira de la Journée internationale des droits des femmes, nous présenterons aussi une sportive.
Oui, ben ce soir, on va commencer cette petite rubrique, c'est de prendre un athlète, un ultramarin, qui a surtout brillé aux Jeux Olympiques. Alors, nous allons commencer par Jefferson Lee Joseph, que vous connaissez sans doute, vous connaissez bien son père. Son père, c'est le chanteur Jeff Joseph.
Okay. Dominique.
Jeff Joseph. Dominique. Soukounian,
Grand Max.
Grand Max, c'est tout à fait.
Ouais, les Grand Max, exactement. Voilà. Alors, Jefferson Lee Joseph est d'origine guadeloupéenne. Sa mère guadeloupéenne, son père est dominicain. Il découvre le rugby à 15 lors de son arrivée à Duras, dans le Lot-et-Garonne. Il effectue ensuite une section sport-études à Talence. Né le 29 août 2002, est un joueur français de rugby à 15 international français de rugby à 7, évoluant au poste d'ailier à l'UPSAP de Perpignan. Le 15 avril 2022, Jefferson Joseph dispute son premier match professionnel avec le sport universitaire à Gien en Pro D2 face à Oyonnax Rugby. Il inscrit un essai au cours de la rencontre à 7. Encore une rencontre. Pourquoi je dis 7, je ne sais pas pourquoi. Son premier match au stade Armandie le 10 février 2023, il inscrit son deuxième essai face au stade Mantois. Le 11 février 2022, il dispute son premier match avec l'équipe de France de rugby à 15 des moins de 20 ans, dans le cadre du tournoi des 6 nations face à l'Irlande. Deux semaines plus tard, lors du match face à l'Écosse, il est exclu après 12 minutes de jeu. Il a du tempérament, le jeune homme. En début de saison 2023-2024, il intègre l'équipe de France de rugby à 7. Il intègre l'équipe senior en tournoi d'Esch avant de se faire ses débuts en tournoi de Hong Kong. C'est là que les Français ont gagné, je crois. Un tournoi de Hong Kong en rugby à 7. Okay. C'est leur premier tournoi qu'ils ont gagné. Avec l'obtention d'une médaille de bronze. Voilà, ils ont fini en bronze au tournoi de à 7 à Hong Kong. C'est le plus grand tournoi international au monde. C'est le tournoi à 7, c'est le plus grand, c'est le celui de Hong Kong. Avec les Bleus du 7, ils remportent le SNNV en 2023-2024, avec notamment le 30e essai international de Joseph en finale contre l'Argentine. Et l'apothéose, à l'été 2024, il est sélectionné pour disputer les Jeux Olympiques de Paris et remporte la médaille d'or avec le fameux Dupont.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est un parcours qui est intéressant à découvrir et à voir, parce qu'on en parle à certaines périodes et d'autres moments, ils disparaissent complètement. On parle de Dupont, on parle de Ntamack, de certains qui sont déjà connus ou reconnus, et ceux qui sont un peu plus anonymes, mais qui ont fait quelque chose, disparaissent totalement de la scène sportive. Donc, avant de nous quitter, outre la disparition des camarades de Radio Galère, nous avons appris le décès de compatriotes, le décès de Jean-Luc Nestoré, dont les obsèques se sont déroulées cet après-midi à Marseille. Donc, en ce moment de profonde douleur, nous tenons à exprimer toute notre solidarité et notre soutien à la famille de Jean-Luc, Bondier, Kébazot la fosse pour porter d'où les autres. Et c'est aussi avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Madame Sophoclis, née Jupiter Clémence. En ces moments de profonde douleur, nous tenons à exprimer à toute sa famille notre solidarité, notre soutien aussi. La cérémonie religieuse aura lieu ce lundi 17 février 2025 à 15h30 à l'église de Saint-Jérôme des 13e, suivie de la crémation à 17h au crématorium de Saint-Pierre. La famille souhaite que les personnes présentes porte un détail de couleur rouge en mémoire de Clémence. Bon, Clémence, qu'on nous a dit, Éloi, un bon feu, un bon voyage, n'est-ce pas? Oui, tu voulais dire quelque chose?
Non, c'est une
spéciale. Donc, afin de terminer, nous allons terminer avec Polo Roselyne, malheureusement disparu lui aussi, du groupe Malavoie, qui interprète un morceau « Je suis en paix avec le monde ». Et c'est ce que nous pouvons souhaiter à ces personnes disparues, donc d'être en paix avec le monde qu'ils ont quitté. Galère sur 88.4. Merci, en espérant vous retrouver le 14 mars pour une émission Journée internationale des droits des femmes. Merci Sidi, merci Gary, merci Yorgis, merci Guy et merci Jeannot d'être présent. Probablement nos amis Guy et Pierre et peut-être Jojo nous retrouveront à l'occasion et ponctuellement. Merci. Bye bye. Tchébé. Plis fos.
Je suis en paix avec le monde et je caresse l'illusion que tout va bien et que le monde est aussi en paix avec moi. Un oiseau chante, moi je chante avec l'oiseau. L'oiseau s'envole, je m'envole avec l'oiseau. L'oiseau s'éloigne, je m'éloigne avec l'oiseau. Vers les étoiles, plus haut, toujours plus haut. Le soleil brille, je brille avec le soleil. Le soleil brûle, je brûle avec le soleil. Le soleil monte, je monte avec le soleil. Et je m'enfonce toujours plus loin dans le ciel. Avec le vent et je m'éclipse hors des limites du temps. Je suis en paix avec le monde et je caresse l'illusion que tout va bien et que le monde est aussi en paix avec moi.